2023, tout de suite les faits majeurs. Élection sénatoriale prévue le 16 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Sur les 129, 6 dossiers de candidature ont été rejetés pour non-conformité à la loi à l'issue des examens effectués par la CEI, la Commission électorale indépendante. Information émanant de son porte-parole, Émile Brottier, que vous allez écouter tout à l'heure, affirme que les candidatures sont composées de 12% de femmes et 88% d'hommes. Le mouvement ivoirien des citoyens handicapés sensibilise depuis Ndoussi et lance à travers une campagne le projet Ville et Commune ouverte au handicap. Maître Brigitte Mensa, sa présidente fondatrice, va dans quelques instants mettre l'accent sur les recommandations en faveur de l'implication des personnes en situation de handicap par rapport aux décisions qui pourraient les concerner. Afrique du Sud, ouverture aujourd'hui jusqu'à jeudi à Johannesburg du 15e sommet des BRICS. En fin d'édition, le sujet sera évoqué par un spécialiste des relations internationales, le professeur Bamba Abdoulaye. L'invité de la rédaction vous permettra de faire la connaissance de cette organisation, de mieux cerner son importance dans le monde et pour les pays africains. Voilà pour l'ossature. Bonjour à tous. Élection sénatoriale du 16 septembre prochain en Côte d'Ivoire. La Commission électorale indépendante, la CEI, rejette 6 dossiers sur 129 pour non-conformité à la loi. L'information a été donnée lundi en fin de soirée par le porte-parole de l'institution à l'occasion d'un point de presse. Émile Brottier, que nous écoutons.
Il y a lieu de rejeter, pour composition non conforme à la loi, les dossiers de candidature déposés par les nommés Traoré Drissa, candidat sans étiquette politique dans la région du Kabadougou, Tano Omoa Christian et Ata Adjo Seth Bernadette Elisa, candidat sans étiquette politique dans la région d'Inzi, Zion K. Deni, candidat investi par le PDCI RDA dans la région du Kavali, Bansé Douadé Alexis et Touré Taïbou Enza Claude, candidat sans étiquette politique dans la région du Tonkoui, Massangbe Makani Salimata Fatimata et Bakayoko Chouaeli, investi par le PDCI RDA dans la région du Worodougou et Kwasi Akissi Colette, candidate sans étiquette politique dans le district autonome de Yamoussoukro, circonscription numéro A2. Considérant que les dossiers de candidature, autres que ceux cités plus haut, au nombre de 123, dont la liste est annexée à la présente décision, sont conformes à la loi et les candidats qui les ont déposés éligibles pour avoir accompli les conditions d'éligibilité prévues par le Code électoral. Qu'il y a lieu de les inscrire sur la liste des candidats aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés et le parti ou le groupement politique qui les a investis peuvent saisir le Conseil constitutionnel dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification de la présente décision.
C'était Émile Brottier, le porte-parole de la CEI, la Commission électorale indépendante. Il était au micro de Junior Cardin. Depuis 2 semaines, le président de la Commission régionale des droits de l'homme du Lodibois multiplie les rencontres avec toutes les couches sociales et professionnelles de Divo concernées par les opérations de vote, droits de l'homme et élections. La dernière rencontre en date d'hier avec les membres de la Chambre nationale des métiers de la ville. Suivons les explications de Tongouin Kofi Jean Habib.
Chacun participe à la vie de l'État, de la nation. Et donc nous demandons de respecter les droits de chacun et de tous, de servir le respect des choix de chacun quant au vote émis. Car la liberté d'expression, c'est un droit inaliénable, c'est le droit que chacun a. Mais cette liberté est encadrée par la loi. Il ne faut pas dire sous le prétexte de la liberté d'expression d'exprimer des propos haineux, des propos de violence, non. Ce genre d'attitude est sanctionné par la loi, en fait. Par exemple, des délations contre un candidat, c'est pas bon. Appeler ses partisans à boycotter ou à empêcher l'autre candidat et ou encore empêcher les partisans de l'autre candidat d'accéder au bureau de vote, c'est pas bon. C'est puni par la loi. Il faut pas que la population s'adonne à la violence cette fois-ci. Parce que Divo en a souffert. Chaque année, quand il y a les élections, il y a des violences, c'est pas bon. Ça n'arrange personne. Ici, nous prenons la vie en communauté, en bonne intelligence, la cohésion sociale, car après les élections, la vie continue.
Tongouin Kofi Jean Habib, président de la Commission régionale des droits de l'homme de la région du Lodibois. L'intronisation dimanche du chef central de la communauté d'An résident à Boaké a été un prétexte pour le ministre des Transports à Madoukoné pour inviter les ressortissants de la région du Tongpui au vivre ensemble afin de bâtir la Côte d'Ivoire dans la paix. Écho de cette cérémonie avec Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Boaké.
La tradition à travers le jeu des alliances à plaisanterie interethnique s'est invitée à la cérémonie d'intronisation du chef de la communauté d'An, résident à Boaké. En effet, contre toute attente, un chef sénoufo s'est emparé du siège de son collègue d'An devant être intronisé.
Est-ce que vous avez demandé l'autorisation au roi? Ce que nous allons demander, un poulet vert, un feta de bleu.
Réponse du berger à la bergère.
C'est ton droit, permets ton enfant qui est venu nettoyer notre ciel à ce que notre papa vient s'asseoir.
Pour le ministre Amadou Koné, par ailleurs parrain de cette cérémonie, la cohésion sociale, la paix, le vivre ensemble et le développement doivent être le credo de toutes les communautés vivant à Boaké.
Que notre ville, que notre région, cette belle région va continuer donc d'aller de l'avant. S'il y a une portion du territoire qui n'est pas développée, c'est une portion de fragilité. Nous sommes tous issus d'une partie de la Côte d'Ivoire et on a un devoir, nous tous, partout où on est, d'apporter notre pierre à l'édifice, de développer. Que la cohésion qui existe ici soit maintenue et renforcée, qu'on puisse fraterniser davantage.
C'est aussi les objectifs visés par la communauté d'An. Issa Keïta, le nouveau chef central des DAN.
Paix, cohésion, c'est notre slogan. Paix et cohésion, c'est notre souci de tous les jours.
Les ressortissants du Grand Ouest étaient présents à cette cérémonie d'intronisation du chef central des DAN de la région de Boaké. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Parlons maintenant de la 23e promotion de l'école de gendarmerie de Torogué. Les élèves sous-officiers de deuxième année ont prêté serment et ceux de la première année de la 24e promotion ont été baptisés lors d'une double cérémonie à Daloa. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, qui a représenté le ministre d'État, ministre de la Défense à cette cérémonie, a exhorté les élèves sous-officiers à rester attachés aux valeurs et principes qui leur ont été enseignés durant leur formation. Ils sont au total 1206 élèves sous-officiers de deuxième année, dont 62 filles et 1411 élèves sous-officiers de la première année, dont 91 filles. Le reportage est signé Jean-Noël Kwami.
Lors de son intervention, le général de corps d'armée, Apollo Alexandre Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a salué les efforts du chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du développement et du rayonnement de la gendarmerie nationale.
Que nous puissions rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et que notre pays continue d'avancer. Merci à son Excellence de rendre notre Côte d'Ivoire belle, mais aussi et surtout de rendre la gendarmerie nationale forte et digne.
Le commandant supérieur de la gendarmerie a en outre demandé aux élèves sous-officiers de se montrer dignes et à la hauteur du métier de gendarme.
Il y a beaucoup de tentations qui vous attendent, dont la plus vilaine est la corruption. Vous devez être des hommes de principe, principe de droiture, de dignité. Notre devise pour la patrie et pour la loi. Vous devez être garant des institutions républicaines. Des gens qui peuvent affronter le danger pour protéger leurs concitoyens en tout lieu et en toutes circonstances. La gendarmerie est une institution d'élite. Si vous servez bien, vous serez récompensé. Si vous servez mal, vous serez sanctionné.
Le lieutenant-colonel Akassi Amon-Joseph, commandant de l'école de gendarmerie de Torogué, est revenu sur la triple mission de cette école créée en 1998, à savoir la formation initiale des élèves sous-officiers, la formation continue des officiers et sous-officiers, ainsi que la formation aux techniques commando. Jean-Noël Kwame, Radio de la Paix.
Crise au Niger, l'impact économique est négatif, se fait ressentir en Côte d'Ivoire, notamment sur le commerce de l'oignon. La communauté nigérienne qui en assure le transit sur le marché ivoirien dit en faire les frais. C'est ce qui ressort de ce reportage de Mel Emmanuel Amani à leur base à Atekoubé.
Commune d'Atekoubé, ce lundi 21 août 2023. Il est 11h lorsque nous arrivons à l'un des points d'approvisionnement en oignons, une gare tenue par la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire. Malgré cette ambiance de salle de classe où l'on bavarde, on peut lire la tristesse sur certains visages des tenanciers de cette gare. Le motif ? Le ralentissement de leur activité économique, en l'occurrence, l'approvisionnement du marché ivoirien en oignons. Cette situation est le résultat de la crise militaro-politique qui prévaut au Niger.
Vraiment, c'est très difficile.
Nous dit Moussa Aboubakar, un des transitaires de la gare. Il continuera pour nous partager son impuissance.
On est bloqué. On ne sait pas quoi faire. Vraiment. Comme on ne fait rien faire, on est lassé, on les regarde.
Depuis le coup d'État opéré le 26 juillet dernier au Niger, les nouvelles autorités militaires ont pris un certain nombre de décisions parmi lesquelles la fermeture des frontières terrestres et aériennes, arrêtant ainsi tout transit en cours dans le pays.
Les coins sont vides. Ici là, si tu viens, tu peux avoir 15 camions d'oignons. Mais actuellement, il faut regarder. Il n'y a rien. Plus de 200 camions qui sont garés à la frontière de Bénin-Niger.
Qu'en est-il des oignons à l'intérieur de ces camions ?
Oignons même tout est gâté.
Ce qui représente une perte conséquente pour ces transitaires, nous dit Aboubakar Amidine.
Il y a des gens qui ont perdu plus de 20 millions, 30 millions, il y a des gens qui ont perdu.
Face au coup d'État survenu au Niger en juillet dernier, les transitaires d'oignons demeurent impuissants et voient leur activité économique être mise à mal et leur stock connaître un épuisement.
Nous venons de l'apprendre, l'Union africaine suspend le pays, le Niger, de ses institutions après le coup d'État et affiche une position réservée sur une éventuelle intervention militaire ouest-africaine selon un communiqué relayé par l'AFP. Faire valoir les droits des personnes en situation de handicap, c'est la mission que s'est assignée le mouvement ivoirien du citoyen handicapé à travers le lancement récemment de son projet dénommé Villes et communes ouvertes au handicap à Ndoussi. Là-dessus, on écoute les explications de Maître Brigitte Mensa, la présidente fondatrice de l'ONG Mich.
Ce que nous avons recommandé à la commune de Ndoussi et qu'on recommandera bien évidemment aux autres communes où on fera cette campagne, c'est qu'elle crée au sein déjà un dans l'équipe municipale qui puisse avoir une personne en situation de handicap. La convention que la Côte d'Ivoire a ratifiée, c'est-à-dire la convention 61-106 des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, impose que les personnes en situation de handicap, les décisions qui pourraient les concerner, qu'elles soient impliquées. Nous avons conseillé aussi que le conseil municipal puisse créer une mission handicap. Le rôle de cette mission handicap, c'est de faire de la grande sensibilisation. Et pour qu'elle puisse faire la sensibilisation, elle doit créer une structure qui s'appellera la commission intercommunale c'est pas entre communes, non. Mais au sein de la commune, toutes les typologies de handicap, c'est-à-dire handicapés mentaux, handicapés sensoriels, handicapés physiques, handicapés intellectuels, toutes ces typologies de handicap vont récolter les membres, les personnes qui représenteraient ces typologies-là, feront remonter déjà à la mission handicap les acquis, feront l'état des lieux et proposeront, pour corriger la situation, des propositions concrètes.
À l'instant, Maître Brigitte Mensa, la présidente fondatrice de l'ONG Miche, entendu le mouvement ivoirien du citoyen handicapé. Commercialisation des produits de l'EVA et du palmier à huile en Côte d'Ivoire, le conseil EVA Palmier met en place un nouveau dispositif avec pour objectif d'avoir une meilleure traçabilité du circuit de vente et des acteurs qui interviennent. C'est ce que dit en substance Touré Seydou Sidney, chef du service commercialisation au conseil EVA Palmier à huile.
Une telle décision s'imposait parce qu'il y avait vraiment une anarchie dans le milieu, il n'y avait pas de respect des prix. Chacun achetait les produits comme il l'entendait. Il fallait vraiment assainir le milieu. Donc, on a commencé l'identification par les exportateurs. On est descendu maintenant au niveau des acheteurs. Et il reste le troisième maillon à identifier, c'est-à-dire les producteurs. Donc, la première phase de la traçabilité est l'identification et ensuite le suivi de l'activité des différents acteurs. Et ce dispositif est composé de 5 outils que nous sommes en train de déployer. Et le premier, c'est l'agrément acheteur. Cet agrément consiste à donner un identifiant unique à chaque acteur pour qu'il puisse être suivi dans toutes ses activités sur le terrain.
Mais au-delà de l'acheteur aussi, vous vous intéressez à ce qu'on appelle communément les pisteurs. Quelles sont les obligations à leur niveau?
Les pisteurs ont pour obligation de se faire identifier par une carte personnalisée.
Mais tout cela, c'est quel bénéfice pour le producteur?
Nous sommes dans une filière où les prix sont donnés mensuellement après accord entre toutes les parties prenantes. Donc, ce prix-là doit être respecté pour que chaque acteur puisse bénéficier du fruit de son labeur. Donc, nous devons aboutir au respect du prix et respecter le prix va impacter le revenu du producteur.
Vous venez d'écouter Touré Seydou Sidney, chef du service commercialisation au conseil EVA Palmier à huile. Il répondait à Jean-Claude Comé. Le 15e sommet des BRICS s'ouvre aujourd'hui en Afrique du Sud avec au programme l'expansion du bloc de pays émergents à de nouveaux membres ainsi que les moyens d'étendre son influence politique et économique mondiale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa accueille les dirigeants du Brésil, de Russie, d'Inde, de Chine jusqu'à jeudi à Johannesburg. Le président russe Vladimir Poutine participera en visioconférence. Ce sommet des BRICS intervient à un moment où les divisions sur la scène internationale ont été accentuées par l'invasion russe en Ukraine. Dimanche, le président Cyril Ramaphosa a réitéré avec force sa politique de non-alignement, affirmant que l'Afrique du Sud ne se laissera pas entraîner dans une compétition entre puissances mondiales, rapporte l'AFP. Guerre au Soudan, près de 500 enfants et probablement des centaines d'autres encore sont morts de faim en 4 mois, rapporté aujourd'hui l'ONG Save the Children. Dans un pays où avant la guerre, un habitant sur 3 souffrait de la faim, des enfants meurent de faim alors que cela aurait tout à fait pu être évité, s'alarme dans un communiqué Arif Nour, son directeur au Soudan. Place à présent à l'invité de la rédaction, enseignant-chercheur à l'université Félix Oufo-Boigny à Cocody, spécialiste des relations internationales. Il jette son regard sur le 15e sommet des BRICS qui s'ouvre, je vous le disais tantôt, à Johannesburg, aujourd'hui en Afrique du Sud, sur le thème suivant, BRICS et Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Le professeur Bamba Abdoulaye vous mènera dans un instant dans les dédales des BRICS. Question de vous permettre de mieux savoir ce qu'est réellement cette organisation. Question de mieux cerner son importance dans le monde d'aujourd'hui et son importance pour les pays africains. L'invité de la rédaction répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, professeur Bamba Abdoulaye.
Bonjour, monsieur Soro.
Afrique du Sud, 22 août 2023, coup d'envoi des travaux du 15e sommet des BRICS. BRICS. Mais les BRICS, qu'est-ce que c'est?
Alors, monsieur Soro, les BRICS, je vais faire simple. B, Brésil. R, Russie. I, N, C, Chine. S, Afrique du Sud. Après cela, il faut savoir que c'est une organisation qui réunit des pays émergents, qui connaissent une certaine dynamique au niveau de leur économie et qui affiche également un certain non-alignement politique sur l'échiquier international.
Des pays émergents.
Oui. Les pays émergents, c'est des pays qui ont connu un développement économique, mais au-delà du développement économique, qui ont leur structure économique, structure de base, les fondamentaux économiques qui ont connu un certain développement, une certaine stabilité, et qui leur permettent donc d'avoir leur mot à dire sur l'échiquier international, au niveau du commerce international, au niveau de la diplomatie, mais aussi de la politique internationale.
Ils ont leur mot à dire pour dire que c'est un nouveau monde qui se dessine avec les BRICS.
Je ne dirais pas que c'est un nouveau monde, mais je dirais que c'est une autre approche de voir le monde qui voit le jour, parce que les BRICS, c'est autour de 3 milliards de population. C'est environ 42% du PIB mondial. C'est 3,2 milliards de personnes membres de ces BRICS-là. Donc vous voyez que sur le plan démographique, sur le plan économique, ils pèsent. Et ça leur permet donc d'avoir leur mot à dire quand c'est une situation se présente.
Un adversaire très sérieux pour le bloc capitaliste?
Je ne dis pas forcément un adversaire, mais je dirais que c'est un acteur important qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut prendre en considération. Et donc, je ne parlerai pas d'adversaire, mais je dirais un acteur essentiel qui est en train de se dessiner, en train de prendre une part active sur l'échiquier international et qui participe également à ce que je pourrais appeler le multilatéralisme à l'échelle internationale, qui met un peu fin à l'unilatéralisme dicté par l'Occident, dicté surtout par les États-Unis.
Pour dire aujourd'hui, il y a d'autres pour imposer aussi leur vision du monde sur tous les plans?
Oui, avec l'avènement des BRICS, vous avez ce qu'on appelle le multilatéralisme dans un premier temps, et un monde multipolaire, pluripolaire. Parce que quand vous prenez les BRICS comme entité, vous formez déjà un pôle. Mais à l'intérieur des BRICS, vous avez la Chine en tant que puissance économique qui est déjà également un pôle. Vous avez la Russie en tant que puissance politique et militaire qui est un pôle. Vous voyez donc la création des BRICS comme entité participe donc à cette multipolarisation ou à cette multipolarité du monde.
Alors, professeur Bamba Abdoulaye, il semble que beaucoup de pays frappent aujourd'hui aux portes des BRICS pour en être membres. Alors, où résiderait, selon vous, ce succès entre griffes des BRICS?
Bon, je l'ai dit tantôt, d'abord, succès économique. C'est des pays qui connaissent un développement économique assez respectable, assez intéressant. Ensuite, leur vision du monde se dégage un peu de cet unilatéralisme qui a toujours guidé le monde après la fin de la guerre froide. Et donc, cette façon de dire qu'il y a d'autres possibilités de choisir le chemin vers le développement. Et tout ça, donc, intéresse d'autres pays qui connaissent aussi des développements assez intéressants, qui souhaiteraient être donc membres des BRICS et bénéficier également de cette solidarité interne qui existe au niveau des BRICS. Donc, développement économique, diplomatie, multilatéralisme, autre façon de voir le monde, c'est peut-être quelques éléments qui ont séduit d'autres personnes, d'autres pays, pardon, et donc qui souhaiteraient donc prendre part donc à cette dynamique internationale que les BRICS ont engagée.
Que gagne l'Afrique en allant vers les BRICS?
Ce que gagne l'Afrique, l'Afrique gagne beaucoup de choses. D'abord, les BRICS ont montré qu'on peut se prendre en charge, on peut s'assumer. Et donc l'Afrique, si elle veut vraiment copier les BRICS, va décider de se prendre en charge, va s'assumer, mais au-delà des mots, en acte surtout, mettre en place des politiques de développement économique, une organisation bien structurée pour avoir des résultats durables, pas des résultats conjoncturels, des résultats durables qui leur permettront d'engager la marche vers le développement, une marche beaucoup plus stable, plus rassurante vers le développement et qui sont donc plus ou moins à l'abri. Et c'est une conjoncture qui montre assez rapidement les faiblesses de nos économies en Afrique.
Et donc?
Je dirais que les BRICS, l'avènement des BRICS est une opportunité pour les pays africains, pas seulement politique, opportunité économique, opportunité diplomatique. Ça peut aussi inspirer les États africains parce que ces pays qui forment les BRICS, vous retournez en arrière il y a 30-40 ans, j'étais pratiquement au même stade que les pays africains. Et aujourd'hui, ils ont montré que c'est possible de se développer, c'est possible d'avoir une croissance économique, c'est possible d'être un modèle économique. Et c'est tout le mal que je souhaite à l'Afrique.
Je vous remercie, professeur Bamba Abdoulaye.
Merci, monsieur Soro.
Et bonne journée.
Merci à vous.
Enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, spécialiste des relations internationales, l'invité du jour se prêtait aux questions de Soro Adams et pour clore le rappel de l'essentiel. Élection sénatoriale prévue le 16 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Sur les 129, 6 dossiers de candidature ont été rejetés pour non-conformité à la loi à l'issue des examens effectués par la CEI. Information émanant de son porte-parole, Émile Brottier, affirme aussi que les candidatures sont composées de 12% de femmes et 88% d'hommes. Le Sénat ivoirien compte 99 sénateurs, dont 66 élus au suffrage universel indirect pour 5 ans. Merci de votre attention. Je reviens à 15h pour le flash. Mais en attendant, je vous invite à suivre la revue de presse signée Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. Élection en Côte d'Ivoire.